Chapitre 8. En remontant la Cama. Le lendemain, 18 juillet, à 6h40 du matin, le Caucase arrivait à l'embarcadère de Kazan que 7 verstes, 7,5 km, séparent de la ville. Kazan est situé au confluent du Volga et de la Kazanka. C'est un important chef-lieu de gouvernement et d'archevêché grec, en même temps qu'un siège d'université. La population variée de cette gubernie se compose de Tchérémis, de Mordoviens, de Tchouvaches, de Volsaks, de Vilgulitch, de Tartares, cette dernière race ayant conservé plus spécialement le caractère asiatique. Bien que la ville fût assez éloignée du débarcadère, une foule nombreuse se pressait sur le quai. On venait aux nouvelles. Le gouverneur de la province avait pris un arrêté identique à celui de son collègue de Nijni Novgorod. On voyait là des Tartares, vêtus d'un caftan à manches courtes et coiffés de bonnets pointus, dont les larges bords rappellent celui du pierrot traditionnel. D'autres, enveloppés d'une longue houppelande, la tête couverte d'une petite calotte, ressemblaient à des juifs polonais. Des femmes, la poitrine plastronnée de clinquants, la tête couronnée d'un diadème relevé en forme de croissant, formaient divers groupes dans lesquels on discutait. Des officiers de police, mêlés à cette foule, quelques cosaques la lance au poing, maintenaient l'ordre et faisaient faire place aussi bien aux passagers qui débarquaient du Caucase qu'à ceux qui y embarquaient, mais après avoir minutieusement examiné ces deux catégories de voyageurs. C'étaient d'une part des Asiatiques frappés du décret d'expulsion, et de l'autre, quelques familles de Moudjiks qui s'arrêtaient à Kazan. Michel Strogoff regardait d'un air assez indifférent ce va-et-vient particulier à tout embarcadère auquel vient d'accoster un steamboat. Le Caucase devait faire escale à Kazan pendant une heure, temps nécessaire au renouvellement de son combustible. Quant à débarquer, Michel Strogoff n'en eut pas même l'idée. Il n'aurait pas voulu laisser seule à bord la jeune Livonienne qui n'avait pas encore reparu sur le pont. Les deux journalistes, eux, s'étaient levés dès l'aube, comme il convient à tout chasseur diligent. Ils descendirent sur la rive du fleuve et se mêlèrent à la foule, chacun de son côté. Michel Strogoff aperçut d'un côté Harry Blount, le carnet à la main, crayonnant quelques types ou notant quelques observations. De l'autre, Alcide Jolivet se contentant de parler, sûr de sa mémoire, qui ne pouvait rien oublier. Le bruit courait sur toute la frontière orientale de la Russie, que le soulèvement et l'invasion prenaient des proportions considérables. Les communications entre la Sibérie et l'Empire étaient déjà extrêmement difficiles. Voilà ce que Michel Strogoff, sans avoir quitté le pont du Caucase, entendait dire aux nouveaux embarqués. Or, ces propos ne laissaient pas de lui causer une véritable inquiétude, et ils excitaient l'impérieux désir qu'il avait d'être au-delà des monts Ourals, afin de juger par lui-même de la gravité des événements et de se mettre en mesure de parer à toute éventualité. Peut-être allait-il même demander des renseignements plus précis à quelque indigène de Kazan, lorsque son attention fut tout à coup distraite. Parmi les voyageurs qui quittaient le Caucase, Michel Strogoff reconnut alors la troupe des Tziganes qui, la veille, figurait encore sur le champ de foire de Nijni Novgorod. Là, sur le pont du steamboat, se trouvaient et le vieux bohémien et la femme qu'il avait traité d'espion. Avec eux, sous leur direction sans doute, débarquaient une vingtaine de danseuses et de chanteuses de 15 à 20 ans, enveloppées de mauvaises couvertures qui recouvraient leurs jupes à paillettes. Ces étoffes, piquées alors par les premiers rayons du soleil, rappelèrent à Michel Strogoff cet effet singulier qu'il avait observé pendant la nuit. C'était tout ce paillon de bohème qui étincelait dans l'ombre lorsque la cheminée du steamboat vomissait quelques flammes. Il est évident, se dit-il, que cette troupe de tziganes, après être restée sous le pont pendant le jour, est venue se blottir sous le gaillard pendant la nuit. Tenaient-ils donc à se montrer le moins possible, ces bohémiens? Ce n'est pourtant pas dans les habitudes de leur race. Michel Strogoff ne douta plus alors que le propos qui le touchait directement ne fût parti de ce groupe noir, pailleté par les lueurs du bord, et n'eût été échangé entre le vieux tzigane et la femme à laquelle il avait donné le nom mongol de Sangaré. Michel Strogoff, par un mouvement involontaire, se porta donc vers la coupée du steamboat au moment où la troupe bohémienne allait le quitter pour n'y plus revenir. Le vieux bohémien était là, dans une humble attitude, peu conforme avec l'effronterie naturelle à ses congénères. On eût dit qu'il cherchait plutôt à éviter les regards qu'à les attirer. Son lamentable chapeau, rôti par tous les soleils du monde, s'abaissait profondément sur sa face ridée. Son dos voûté se bombait sous une vieille souquenille dont il s'enveloppait étroitement malgré la chaleur. Il eût été difficile, sous ce misérable accoutrement, de juger de la taille et de sa figure. Près de lui, la tzigane Sangaré, femme de 30 ans, brune de peau, grande, bien campée, les yeux magnifiques, les cheveux dorés, se tenait dans une pose superbe. De ces jeunes danseuses, plusieurs étaient remarquablement jolies, tout en ayant le type franchement accusé de leur race. Les tziganes sont généralement attrayantes, et plus d'un de ces grands seigneurs russes qui font profession de lutter d'excentricité avec les Anglais n'a pas hésité à choisir sa femme parmi ces bohémiennes. L'une d'elles fredonnait une chanson d'un rythme étrange, dont les premiers vers peuvent se traduire ainsi. « Le corail luit sur ma peau brune, l'épingle d'or à mon chignon, je vais chercher fortune au pays de... » La rieuse fille continua sa chanson sans doute, mais Michel Strogoff ne l'écoutait plus. En effet, il lui sembla que la tzigane Sangaré le regardait avec une insistance singulière. On eût dit que cette bohémienne voulait ineffaçablement graver ses traits dans sa mémoire. Puis quelques instants après, Sangaré débarquait la dernière, lorsque le vieillard et sa troupe avaient déjà quitté le Caucase. « Voilà une effrontée bohémienne !» se dit Michel Strogoff. « Est-ce qu'elle m'aurait reconnu pour l'homme qu'elle a traité d'espion à Nijni Novgorod ? Ces damnées tziganes ont des yeux de chat. Elles y voient clair la nuit, et celle-là pourrait bien savoir. » Michel Strogoff fut sur le point de suivre Sangaré et sa troupe, mais il se retint. « Non, pensa-t-il, pas de démarche irréfléchie. Si je fais arrêter ce vieux diseur de bonne aventure et sa bande, mon incognito risque d'être dévoilé. Le voilà débarqué d'ailleurs, et avant qu'ils aient passé la frontière, je serai déjà loin de l'Oural. Je sais bien qu'ils peuvent prendre la route de Kazan à Ichim, mais elle n'offre aucune ressource, et un tarantas attelé de bons chevaux de Sibérie devancera toujours un chariot de bohémiens. Allons, ami Korpanov, reste tranquille. » D'ailleurs, à ce moment, le vieux tzigane et Sangaré avaient disparu dans la foule. Si Kazan est justement appelée la porte de l'Asie, si cette ville est considérée comme le centre de tout le transit du commerce sibérien et boukharien, c'est que deux routes viennent s'y amorcer, qui donnent passage à travers les monts Oural. Mais Michel Strogoff avait choisi très judicieusement en prenant celle qui va par Perm, Ekaterinbourg et Tioumen. C'est la grande route de poste, bien fournie de relais entretenus aux frais de l'État, et elle se prolonce depuis Ichim jusqu'à Irkoutsk. Il est vrai qu'une seconde route, celle dont Michel Strogoff venait de parler, évitant de légers détours de Perm, relie également Kazan à Ichim en passant par Yelaluga, Menzelinsk, Birsk, Zlatoust, où elle quitte l'Europe, Tchelabinsk, Chadrinsk et Kourgané. Peut-être même est-elle un peu plus courte que l'autre, mais cet avantage est singulièrement diminué par l'absence des maisons de poste, le mauvais entretien du sol, la rareté des villages. Michel Strogoff, avec raison, ne pouvait être qu'approuver du choix qu'il avait fait, et si, ce qui paraissait probable, ces bohémiens suivaient cette seconde route de Kazan à Ichim, il avait toute chance d'y arriver avant eux. Une heure après, la cloche sonnait à l'avant du Caucase, appelant les nouveaux passagers, rappelant les anciens. Il était 7 heures du matin. Le chargement du combustible venait d'être achevé, les tôles des chaudières frissonnaient sous la pression de la vapeur, le steamboat était prêt à partir. Les voyageurs, qui allaient de Kazan à Perm, occupaient déjà leur place à bord. En ce moment, Michel Strogoff remarqua que des deux journalistes, Harry Blount était le seul qui eût rejoint le steamboat. Alcide Jolivet allait-il donc manquer le départ? Mais à l'instant où l'on détachait les amarres, apparut Alcide Jolivet tout courant. Le steamboat avait déjà débordé, la passerelle était même retirée sur le quai, mais Alcide Jolivet ne s'embarrassa pas de si peu, et sautant avec la légèreté d'un clown, il retomba sur le pont du Caucase, presque dans les bras de son confrère. « J'ai cru que le Caucase allait partir sans vous, dit celui-ci d'un air à moitié figue, moitié raisin. « Bah !» répondit Alcide Jolivet. « J'aurais bien su vous rattraper, quand j'aurais dû fréter un bateau aux frais de ma cousine, ou courir la poste à 20 copecks par verste et par cheval. Que voulez-vous ? Il y avait loin de l'embarcadère au télégraphe. » « Vous êtes allé au télégraphe ? » demanda Harry Blount, dont les lèvres se pincèrent aussitôt. « J'y suis allé, » répondit Alcide Jolivet avec son plus joli sourire. « Et il fonctionne toujours jusqu'à Kolyvan ? » « Cela, je l'ignore, mais je puis vous assurer, par exemple, qu'il fonctionne de Kazan à Paris. » « Vous avez adressé une dépêche à votre cousine ?»«
Avec enthousiasme. »
« Vous avez donc appris... »« Tenez, mon petit père, pour parler comme les Russes, » répondit Alcide Jolivet. « Je suis bon enfant, moi, et je ne veux rien avoir de caché pour vous. Les Tartares, Féofarkhan à leur tête, ont dépassé Semipalatine, ce qui est descendre le cours de l'Irtitch. Faites-en votre profit. »
« Comment ?»
Une si grave nouvelle, et Harry Blount ne la connaissait pas. Et son rival, qu'il avait vraisemblablement apprise de quelque habitant de Kazan, l'avait aussitôt transmise à Paris. Le journal anglais était distancé. Aussi Harry Blount, croisant ses mains derrière son dos, alla-t-il s'asseoir à l'arrière du steamboat sans ajouter une parole. Vers 10 heures du matin, la jeune Livonienne, ayant quitté sa cabine, monta sur le pont. Michel Strogoff, allant à elle, lui tendit la main. « Regarde, sœur, » lui dit-il après l'avoir amenée jusque sur l'avant du Caucase. Et en effet, le site valait qu'on l'examinât avec attention. Le Caucase arrivait en ce moment au confluent du Volga et de la Kama. C'est là qu'il allait quitter le grand fleuve après l'avoir descendu pendant plus de 400 verstes pour remonter l'importante rivière sur un parcours de 460 verstes, 490 km. En cet endroit, les eaux des deux courants mêlaient leurs teintes un peu différentes et la Kama, rendant à la rive gauche le même service que l'Oka avait rendu à sa rive droite en traversant Nijni Novgorod, l'assainissait encore de son limpide affluent. La Kama s'ouvrait largement alors et ses rives boisées étaient charmantes. Quelques voiles blanches animaient ses belles eaux, tout imprégnées de rayons solaires. Les coteaux, plantés de trembles, d'aunes et parfois de grands chênes, fermaient l'horizon par une ligne harmonieuse que l'éclatante lumière de midi confondait en certains points avec le fond du ciel. Mais ces beautés naturelles ne semblaient pas pouvoir détourner, même un instant, les pensées de la jeune Livonienne. Elle ne voyait qu'une chose, le but à atteindre, et la Kama n'était pour elle qu'un chemin plus facile pour y arriver. Ses yeux brillaient extraordinairement en regardant vers l'est, comme si elle eût voulu percer de son regard cet impénétrable horizon. Nadia avait laissé sa main dans la main de son compagnon, et bientôt, se retournant vers lui, « À quelle distance sommes-nous de Moscou ?» lui demanda-t-elle.
« À 900 verstes, » répondit Michel Strogoff.
« 900 sur 7000, » murmura la jeune fille. C'était l'heure du déjeuner, qui fut annoncée par quelques tintements de la cloche. Nadia suivit Michel Strogoff au restaurant du steamboat. Elle ne voulut point toucher à ses hors-d'œuvre servis à part, tels que caviar, harengs coupés en petites tranches, eau-de-vie de seigle anisée, destinés à stimuler l'appétit, suivant un usage commun à tous les pays du Nord, en Russie comme en Suède ou en Norvège. Nadia mangea peu. Et peut-être comme une pauvre fille dont les ressources sont très restreintes. Michel Strogoff crut donc devoir se contenter du menu qui allait suffire à la compagne, c'est-à-dire d'un peu de koulbat, sorte de pâté fait avec des jaunes d'œufs, du riz et de la viande pilée, des choux rouges farcis au caviar et de thé pour toute boisson. Ce repas ne fut donc ni long ni coûteux. Et moins de 20 minutes après s'être mis tous les deux à table, Michel Strogoff et Nadia remontaient ensemble sur le pont du Caucase. Alors ils s'assirent à l'arrière, et sans autre préambule, Nadia, baissant la voix de manière à n'être entendue que de lui seul, « Frère, » dit-elle, « je suis la fille d'un exilé. Je me nomme Nadia Fedor. Ma mère est morte à Riga il y a un mois à peine, et je vais à Irkoutsk rejoindre mon père pour partager son exil.
Je vais moi-même à Irkoutsk, répondit Michel Strogoff, et je regarderai comme une faveur du ciel de remettre Nadia Fédor, saine et sauve, entre les mains de son père. Merci, frère, répondit Nadia. Michel Strogoff ajouta alors qu'il avait obtenu un podarochna spécial pour la Sibérie et que du côté des autorités russes, rien ne pourrait entraver sa marche. Nadia n'en demanda pas davantage. Elle ne voyait qu'une chose dans la rencontre providentielle de ce jeune homme simple et bon, le moyen pour elle d'arriver jusqu'à son père. « J'avais, lui dit-elle, un permis qui me donnait l'autorisation de me rendre à Irkoutsk, mais l'arrêté du gouverneur de Nijni Novgorod est venu l'annuler, et sans toi, frère, je n'aurais pu quitter la ville où tu m'as trouvé et dans laquelle, bien sûr, je serais morte. »« Et seule, Nadia, répondit Michel Strogoff, seule tu osais t'aventurer à travers les steppes de la Sibérie. » C'était mon devoir, frère. Mais ne savais-tu pas que le pays soulevé et envahi était devenu presque infranchissable ? L'invasion tartare n'était pas connue quand je quittais Riga, répondit la jeune Livonienne. C'est à Moscou seulement que j'ai appris cette nouvelle. Et malgré cela, tu as poursuivi ta route ? C'était mon devoir. Ce mot résumait tout le caractère de cette courageuse jeune fille. Ce qui était son devoir, Nadia n'hésitait jamais à le faire. Elle parla alors de son père, Vassili Fédor. C'était un médecin estimé de Riga. Il exerçait sa profession avec succès et vivait heureux au milieu des siens. Mais son affiliation à une société secrète étrangère ayant été établie, il reçut l'ordre de partir pour Irkoutsk et les gendarmes qui lui apportaient cet ordre le conduisirent sans délai au-delà de la frontière. Vassili Fédor n'eut que le temps d'embrasser sa femme, déjà bien souffrante, sa fille, qui allait peut-être rester sans appui, et pleurant sur ces deux êtres qu'il aimait, il partit. Depuis 2 ans, il habitait la capitale de la Sibérie orientale, et là, il avait pu continuer presque sans profit sa profession de médecin. Néanmoins, peut-être eût-il été heureux, autant qu'un exilé peut l'être, si sa femme et sa fille eussent été près de lui. Mais Madame Fédor, déjà bien affaiblie, n'aurait pu quitter Riga. 20 mois après le départ de son mari, elle mourut dans les bras de sa fille, qu'elle laissait seule et presque sans ressources. Nadia Fédor demanda alors et obtint facilement du gouvernement russe l'autorisation de rejoindre son père à Irkoutsk. Elle lui écrivit qu'elle partait. À peine avait-elle de quoi suffire à ce long voyage, et cependant elle n'hésita pas à l'entreprendre. Elle faisait ce qu'elle pouvait, Dieu ferait le reste. Pendant ce temps, le Caucase remontait le courant de la rivière. La nuit était venue, et l'air s'imprégnait d'une délicieuse fraîcheur. Des étincelles s'échappaient par milliers de la cheminée du steamboat, chauffée au bois de pin, et au murmure des eaux brisées sous son étrave se mêlaient les rugissements des loups qui infestaient dans l'ombre la rive droite de la Kama.